sur ce titre, Blina, nous accueillons Mel Emmanuel qui s'installe pour le 7h. Bonjour Mel.
Bonjour Gislain, comment ça va?
Ça va bien et ça fait du bien d'entrer avec Amédée Pierre.
Oui, ça c'est un doya, comme on dit en Côte d'Ivoire, de la musique ivoirienne.
Hein. C'est cela, ouais. Un doyen justement de la musique ivoirienne. Mmh. Et nous en parlerons aujourd'hui dans l'émission sur les traces d'une icône. On vous laisse pour le 7h avec Mel Emmanuel.
Radio de la paix, il est 7h. Le journal de 7h, Mel Emmanuel.
Mardi 24 octobre 2023, bonjour à tous. Le Conseil régional du Poro tenait sa première réunion ce week-end au cours de laquelle le président Fidel Sarasoro a décliné les différents pans de ses actions pour le développement de la région. La mise en place d'un système d'alerte, de riposte et de gestion des cas d'infection nosocomiale liés aux bactéries pathogènes hautement résistantes dans les CHU de Côte d'Ivoire, c'est l'objet d'un atelier organisé par le groupe multisectoriel de coordination de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens GMC-RAM. Vous en aurez plus de détails dans ce journal. Hors de la Côte d'Ivoire, un naufrage a fait plusieurs morts et des disparus dans l'ouest de la RDC dimanche dernier sur un affluent du fleuve Congo, 8 jours après une catastrophe similaire. Les titres des journaux ivoiriens seront parcourus dans cette édition par Jean-Claude Comé. Enfin, le soutien financier de l'État aux organes de la presse via l'Agence de soutien et de développement des médias est la question qui est abordée avec le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Jean-Claude Koulibaly. Il est l'invité de la rédaction. Bienvenue sur Radio de la Paix. La prévention et la gestion des conflits et les droits de l'homme, c'est le thème principal de la 7e édition de la session internationale de formation en droit international des droits de l'homme. Cette session qui se tient du 23 au 28 octobre 2023 à Abidjan est co-organisée par la Fondation Friedrich Neumann et la Fondation René Cassin, soutenue par le PNUD, le CNDHCI et les ambassades de la France, de la Suisse et d'Allemagne accréditées en Côte d'Ivoire. La conférence inaugurale de cette édition, qui a marqué hier lundi 23 octobre l'ouverture de la 10e session, a porté sur le thème « Construction du droit international des droits de l'homme, analyse dynamique et critique ». Compte rendu, Jean-Claude Mabéa.
S'adressant aux auditeurs, Alexandra Helt, directrice Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Naumann, a situé le contexte de cette 7e édition de la session de formation d'Abidjan.
Dans un monde où les droits de l'homme sont souvent relégués au second plan, marginalisés par les urgences politiques et économiques, des initiatives comme celle-ci rappellent avec force leur rôle central dans la poursuite d'une paix véritable et d'une sécurité durable. Engagez-vous tous dans et pour la liberté, nous en sortirons toujours gagnants.
Le professeur Sébastien Touzé, le directeur de la Fondation René Cassin, a à son tour rappelé les raisons du choix du thème de cette édition.
La prévention et la gestion des conflits et les droits de l'homme est en effet un sujet que nous avions choisi de traiter en ayant au premier abord un focus sur la question régionale et sur les différents coups d'État qui avaient frappé plusieurs pays de la sous-région.
Pour Namizata Sangaré, la présidente du CNDHCI, cette initiative est une opportunité que les apprenants doivent saisir pour relever les défis sécuritaires du moment.
Chers auditeurs, nous attendons que cette session de formation constitue pour chacun de vous l'occasion de disposer des clés de compréhension de cette problématique et de mieux vous approprier les meilleures stratégies visant à prévenir et à gérer les conflits. Il s'agit d'un défi énorme.
Ce programme a été délocalisé de Dakar à Abidjan depuis 2012 et ce sont 75 auditeurs qui participeront aux cours dispensés par 11 enseignants du 23 au 28 octobre 2023 au Conseil national des droits de l'homme à Abidjan.
À partir du début de l'année 2024, les droits de douane dans les transactions entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne n'existeront plus. Cela résulte des accords de partenariat économique signés entre l'Organisation européenne et la Côte d'Ivoire. En revanche, cela pourrait avoir des conséquences, notamment pour les entreprises ivoiriennes, selon les explications de Dr Germain Cramaux.
Pour un bref rappel, il faut savoir que avant les APE, l'Union européenne et les pays d'Afrique, du Caraïbe et du Pacifique ont fait des accords qui facilitaient l'entrée des produits de ces pays-là sur le marché européen, sans droit de douane. Et il s'avérait que ces accords n'étaient pas compatibles avec les règles de l'OMC. Parce que l'OMC demande à ce que si vous accordez des avantages à un pays, il est aussi évident que ces mêmes avantages soient accordés aux autres pays membres de l'OMC. Et donc c'était comme si on était un peu dans l'illégalité selon les règles de l'OMC. Donc pour corriger cela, on a décidé de mettre en place des accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays africains.
Alors quelles sont les conséquences pour d'abord l'économie ivoirienne et partant pour la zone européenne?
Vu que du point de vue de la compétitivité, nos produits sont moins compétitifs vis-à-vis des produits européens. Donc, le danger, c'est que nos entreprises disparaissent. Parce que lorsqu'un bien plus compétitif entrera sur le marché ivoirien, il va s'en dire que nos produits ne pourront pas faire face à la concurrence. Déjà, avec la mise en œuvre de cet accord, nous pouvons continuer d'exporter sur ces marchés et aussi pouvoir nous améliorer et faire face à la concurrence. Parce que ces pays imposent des normes pour pouvoir accéder à leur marché. Donc nous serons amenés à améliorer nos processus de production, à obtenir des biens de meilleure qualité pour aussi pouvoir exporter sur ces marchés européens.
Le docteur Germain Cramaux, interrogé à l'instant par Jean-Claude Comé. La première réunion du Conseil régional du Poro, qui a eu lieu le samedi 21 octobre dernier à Korogo, a été consacrée à l'aspect organisationnel des actions prévues par le dit Conseil. Quid de cette organisation structurelle pour atteindre les objectifs du Conseil régional du Poro? Quelles sont ces actions? On écoute les explications de Fidel Sarasoro, président du Conseil régional du Poro, dans des propos recueillis par Marcel Bonny.
Cette première réunion a pour principal objectif de mettre en place les principaux outils de fonctionnement qui vont régir notre action à la tête de la région. Car il s'agira pour nous de définir le règlement qui va déterminer notre façon de travailler au regard des textes qui régissent le fonctionnement des collectivités territoriales. Il s'agira de la mise en place des commissions permanentes de travail. À cela s'ajoute l'installation du comité économique, social et environnemental régional, un organe consultatif qui a pour rôle de porter un regard critique sur nos actions. Notre action cible en effet la sauvegarde de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie, l'autonomisation de la femme, l'insertion socio-professionnelle des jeunes à travers la formation. Tout cela sera notre guide. Bien entendu, les infrastructures sociales de base dans les secteurs de l'éducation, la santé, l'eau potable ou encore les infrastructures économiques comme les routes, les aménagements d'espaces agricoles, l'appui à la redynamisation de l'activité culturelle et le tourisme sont des éléments que nous allons étudier minutieusement pour apporter des solutions innovantes avec des résultats perceptibles.
Ouvrons une page santé dans ce journal. Octobre rose, lutte contre le cancer du sein. Ce sont plus de 1700 femmes qui décèdent avec une incidence de nouveaux cas de plus de 3300 femmes par an. Une annonce faite par le docteur Mama Ahmed, médecin oncologue à l'hôpital militaire d'Abidjan et au centre médical militaire d'Akwedo. En ce qui concerne les tranches d'âge les plus touchées, il a fait savoir que l'âge moyen est de 44 ans. Un état qui nécessite pour lui une lutte pour informer davantage la population. Docteur Mama Ahmed, médecin oncologue, a été joint par Paul Bénédicte Bolou.
En matière de statistiques, vous avez environ 1700 femmes qui décèdent du cancer par an et vous avez plus de 3300 nouvelles femmes qui sont atteintes du cancer. Et vous avez 75 à 80% de ces femmes qui viennent à des stades où on ne peut plus être dans une optique de guérison du cancer. Donc on comprend que c'est un problème vraiment d'ignorance et de sensibilisation. C'est pour cela justement qu'on développe ça et là des programmes pour pouvoir sensibiliser la population à se faire dépister tôt. Parce que le cancer du sein est le premier cancer en Côte d'Ivoire et dans le monde. C'est le cancer le plus fréquent de toutes les manières, tous sexes confondus. L'âge moyen d'atteindre le cancer du sein en Côte d'Ivoire est de 44 ans. Ça veut dire qu'on a le cancer beaucoup plus jeune ici.
Alors comment expliquez-vous ce taux élevé de décès? Quelles en sont les raisons?
On a fait un groupe d'études qui permet de pouvoir avoir des données vraiment basées sur des preuves. Ce qu'on voit, c'est beaucoup coup, sur le plan observationnel, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'ignorance de la population, si ce que c'est même que le cancer en général. Et c'est une maladie qui, en général, fait fuir tout le monde. Et les patients ne consultent pas assez vite. Même les prestataires de soins ne sont pas disponibles dans toute la Côte d'Ivoire. Ils sont beaucoup plus concentrés à Abidjan. On n'a que quelques centres publics qui soignent le cancer et d'autres privés. Mais donc, que dire de l'intérêt du pays et des autres? Donc, ce qui fait que les patients, le temps qu'ils arrivent chez un médecin oncologue qui soigne le cancer, c'est vraiment souvent beaucoup trop tard.
Santé toujours avec cette fois-ci la mise en place d'un système d'alerte, de riposte et de gestion des cas d'infection nosocomiale liés aux bactéries pathogènes hautement résistantes dans les CHU de Côte d'Ivoire. Un atelier a réuni du 17 au 18 octobre dernier à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire les acteurs de la santé des centres hospitaliers universitaires d'Abidjan. Cette rencontre a été organisée par le groupe multisectoriel de coordination de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens GMC-RAM. Les détails avec la présidente du GMC RAM et directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, professeur Mireille Dosso.
Les infections nosocomiales, ce sont des infections que vous attrapez à l'hôpital. Actuellement, il y a eu une augmentation de ces infections-là avec des bactéries très résistantes et donc on a voulu s'organiser pour vraiment réduire cet impact de ces bactéries multirésistantes-là. La situation de la Côte d'Ivoire, on ne sait pas exactement quelle est l'importance. On sait seulement qu'il y en a. Et justement, une des premières activités que l'on veut faire, c'est une enquête pour voir quel est le niveau, la gravité, l'importance de ces infections dans tous les hôpitaux. En général.
Alors, est-ce que vous avez une idée aussi de ces germes-là auxquels nos hôpitaux sont confrontés?
Oui, on a une idée des germes, surtout dans les services de réanimation, de néonatologie, où ces infections-là sont fréquentes. Ce sont des services où les gens ont des pathologies graves. Ça ne donne pas l'importance au plan national. Le problème, ça peut être n'importe quoi. Les germes qu'on trouve sont résistants à tous les antibiotiques qui sont commercialisés.
Avant la mise en place de ce nouveau système, quelles étaient les actions pour freiner ou retarder ces infections-là?
On avait des relations avec certains services qui sont souvent plus touchés, comme la réanimation, la néonatologie, etc. Mais là, il convient d'étendre ça à tous les services pour voir vraiment l'ampleur et pouvoir donner des mesures de riposte et enfin de les limiter.
Nous écoutions la présidente du GMC RAM et directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, professeur Mireille Dosso. Un nouveau naufrage dans l'ouest de la RDC a fait dimanche dernier des morts et des disparus sur un affluent du fleuve Congo, 8 jours après une catastrophe similaire dont le bilan officiel faisait état d'au moins 47 morts. Un représentant de la société civile a fait état de 40 morts et plusieurs dizaines de disparus dans ce nouvel accident. Un responsable de la province de l'Équateur évoquait de son côté des morts dont il ne précisait pas le nombre en attendant des informations d'une équipe d'enquêteurs envoyée sur place. Il s'agit encore une fois d'une embarcation en bois appelée baleinière qui a chaviré en pleine nuit alors qu'elle transportait passagers et marchandises. Retour en Côte d'Ivoire avec Jean-Claude Comé pour le parcours des titres de la presse de ce jour. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Mel Emmanuel Amani, bonjour à tous. Football, et c'est le confrère Fraternité Matin qui s'y intéresse. Un bel hommage vient d'être rendu par la Confédération africaine de football à la Côte d'Ivoire. Eh bien, elle a donné le nom de Laurent Pokou, légende ivoirienne du football, au ballon officiel de la CAN 2023 qui se déroule dans moins de 3 mois en Côte d'Ivoire. Une compétition dont la réussite constitue l'un des grands défis immédiats qui attendent le nouveau Premier ministre Robert Begré-Mambé. Comme le rappelle Soir Info et l'Expression, le patriote a la conviction que le Premier ministre et également ministre des Sports peut réussir la CAN 2023. Le mandat et le rassemblement signalent que pour élever ces défis, le chef du gouvernement reçoit le soutien des ingénieurs des travaux publics, une corporation dont il fait partie. Autre structure qui voit sa présidence renouvelée, c'est la Grande Chancellerie, dont la présidente sortante Henriette Dagry-Diabaté fait ses adieux, rapporte le temps. Madame Dagry-Diabaté passe la main à Ali Koulibaly, affiche le matin. Henriette Dagry-Diabaté passe le flambeau à Ali Koulibaly, écrit l'avenir. Grande chancellerie, Ali Koulibaly s'installe, renchérit Fraternité Matin, qui souligne l'hommage d'Henriette Diabaté au président Ouattara. Le patriote donc se fait l'écho des propos d'Henriette Diabaté à propos du chef de l'État. Non, je ne me suis pas trompé de croire en cet homme. Fin de citation. Vu des partis politiques, PPACI, Soir Info annonce que Gbagbo Laurent opère des changements indiquant qu'Hubert Houlaï, Damana Picasse, Katina Kone sont remplacés. Gbagbo fait de profonds changements avec un nouveau secrétariat général, comme note l'Inter. Gbagbo change tout, déclare le nouveau réveil, qui n'hésite pas à parler de chamboulement à la direction du PPACI. Ce journal proche du PDCI-RDA profite pour envoyer un message à ceux qui souhaitent la division du PDCI. Le PDCI sortira du congrès plus grand et plus conquérant, martèle le confrère. Santé, Fraternité Matin s'intéresse à la difficile vie des femmes après l'ablation de leur sein atteint du cancer. Merci.
Merci à vous Jean-Claude Comé. Vous serez encore avec nous à 8h pour une autre revue des titres. L'invité de la rédaction de ce jour est le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Parlons du soutien financier de l'État aux organes de presse via l'Agence de soutien de développement des médias. Il explique que c'est remplissant des conditions précises qu'on en bénéficie tout en plaidant pour l'augmentation de ce fonds. Jean-Claude Koulibaly répond à cet effet aux questions de Francis Cassis.
Jean-Claude Koulibaly, bonjour.
Bonjour.
Récemment, l'Agence de soutien du développement des médias a eu une rencontre avec les acteurs de la presse, les responsables que vous êtes. De quoi a-t-il été question ?
Il a été question de la restitution des travaux que nous avons faits de façon contentieuse en ce qui concerne les critères de visibilité et les conditions d'accès à l'aide publique gérée par l'Agence de soutien et de développement des médias.
Alors, en termes de conditions, comme vous l'avez dit, quelle est la condition essentielle ou les conditions essentielles?
Les conditions essentielles sont que vous soyez légalement constitué naturellement. En plus, il faut vraiment être à jour de ces cotisations sociétales, c'est-à-dire au niveau des impôts, au niveau de la cotisation sociale, etc. Et il faut avoir vraiment un siège avec un contrat de bail en cours de validité. Il faut également être représentatif dans le domaine dans lequel vous exercez, etc., etc.
Quels sont les médias qui sont concernés?
En principe, tous ceux qui exercent dans le secteur des médias sont éligibles. Mais quand il s'agit, par exemple, des critères d'éligibilité, vous pouvez être, par exemple, disqualifié sur certains points, sur certains critères. Et même au niveau des conditions d'accès, vous pouvez être aussi disqualifié. Vous pouvez être éligible, mais il y a aussi ce qu'on appelle les conditions d'accès. Est-ce qu'au niveau des conditions d'accès, vous remplissez les critères? Même quand vous finissez au niveau des conditions d'accès, il y a aussi ce qu'on appelle les documents à fournir, la dernière étape. Si au niveau des documents à fournir, il y a certains documents dont vous n'êtes pas en possession, il est clair que vous ne pouvez pas véritablement bénéficier de cette aide.
Est-ce qu'on peut avoir une idée du montant de cette aide pour chaque organe de presse?
Ce n'est pas vraiment de l'argent à distribuer de façon systématique. C'est comme, si vous voulez, une banque. Tout le monde peut avoir accès à la banque. Mais en même temps, quand vous allez demander un prêt, par exemple, ou une aide, on va vous demander un certain nombre de conditions, un certain nombre de papiers. Si vous ne réussissez pas vraiment à produire ces papiers-là et vous ne remplissez pas les conditions, il est clair que la banque va vous refuser soit le prêt ou bien soit l'aide que vous demandez. Voilà un peu comment ça se passe.
Par rapport à l'assujettissement dont vous parlez et les conditions professionnelles, c'est-à-dire la déontologie et puis l'éthique qui sont les références, les règles pour notre métier, est-ce que si un média est un peu défaillant vis-à-vis de ces règles-là, ce média-là pourra avoir l'aide?
Pas du tout. Les sanctions au niveau de l'AMP, c'est-à-dire au niveau de l'Autorité nationale de la presse, sont aussi prises en compte dans ces critères d'éligibilité. C'est-à-dire que si vous êtes un mauvais élève, si je peux m'exprimer ainsi, il est clair que si vous vous écopez à plusieurs reprises de plusieurs sanctions au niveau de l'ANP relatives à toute atteinte à l'éthique et à la déontologie, il n'est pas sûr que vous soyez éligible.
Alors, mais président, si on prend aussi dans l'autre sens, est-ce que les médias ne pourraient pas se dire il faut que je fasse attention alors que peut-être je dois dire quelque chose qui arrange les lecteurs ou les téléspectateurs ou l'auditeur, mais comme il y a le soutien qui doit venir, je dois aussi faire attention. Est-ce que ça ne va pas provoquer une sorte d'autocensure?
Non, les choses sont claires. On ne doit pas s'autocensurer parce que dans tous les cas, la liberté de la presse, la liberté d'expression, qui sont garanties par notre constitution même. Mais la liberté de la presse ne veut pas dire libertinage, ne veut pas dire aussi enfreindre les règles qui encadrent même notre métier de journaliste, c'est-à-dire le code d'éthique et de la déontologie et la panoplie des tests réglementaires qui encadrent notre métier, notamment la loi sur la presse de 2017. Ce sont ces tests-là vraiment qui nous permettent d'exercer notre métier, mais dans les limites véritablement de la loi.
Alors dites-nous, par rapport à cette aide de l'État via l'Agence de soutien et de développement des médias, est-ce qu'il y a des organes de presse qui ont déjà bénéficié de cette aide ou qui sont sur le point d'en bénéficier?
Oui, depuis la création d'abord du fonds de soutien au développement, qui est l'ancêtre, si vous voulez, de l'Agence de soutien et de développement des médias. Il y a eu plusieurs entreprises de presse, il y a eu même plusieurs organisations professionnelles des médias qui ont bénéficié, notamment l'UNJCI, dont je suis le président, qui ont bénéficié vraiment de cette aide-là et continuent d'en bénéficier d'ailleurs. Voilà, mais il suffit, comme je l'ai dit tantôt, d'être éligible, de remplir les conditions d'accès et puis d'avoir vraiment le document que vous demande l'agence.
Un appel a lancé par le président de l'UNJCI aux médias par rapport à cette aide venant de l'État via l'Agence de soutien et de développement des médias.
D'abord, dans un premier temps, je tiens à remercier le président de la République, le président Alassane Ouattara, parce que c'est lui, véritablement, qui est le moteur de toute cette aide-là, via notre ministère, qui est le ministère de la Communication. C'est un exemple unique en Afrique sur cette manière d'aider les acteurs du secteur des médias. Mais en même temps, mon plaidoyer va dans le sens d'accroître cette aide, d'augmenter l'enveloppe de cette aide. Parce que, par le passé, avec le fonds, c'était seulement la presse privée qui était aidée. Aujourd'hui, on nous a ajouté les acteurs du secteur de l'audiovisuel et même les publicitaires. Nous savons que l'aide fluctue entre 2 milliards et 3 milliards. Il est clair que avec 2 ou 3 milliards, on ne peut pas faire des miracles. Parce qu'avant même, c'était difficile. Mais maintenant qu'on nous ajoute encore d'autres acteurs, il est clair que ce sera encore plus difficile. Donc, mon plaidoyer, c'est de faire en sorte que cette aide-là encore soit augmenté. Je pense qu'avec 0,01% du budget national, qui correspond à près de 10 milliards, voire 11, on peut aider tous les acteurs des médias, véritablement, à remplir leur mission.
Jean-Claude Koulibaly, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Jean-Claude Koulibaly, à l'instant en entretien avec Francis Cassi. Nous arrivons au terme de ce journal, le rappel des titres. Le Conseil régional du Poro tenait sa première réunion ce week-end, au cours de laquelle le président Fidel Sarasoro a décliné les différents pans de ses actions pour le développement de la région. La mise en place d'un système d'alerte, de riposte et de gestion des cas d'infection nosocomiale liés aux bactéries pathogènes hautement résistants dans les CHU de Côte d'Ivoire, c'était l'objet d'un atelier organisé par le groupe multisectoriel de coordination de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens GMC-RAM. Enfin, hors de la Côte d'Ivoire, un naufrage a fait plusieurs morts et disparus dans l'ouest de la RDC dimanche dernier sur un affluent du fleuve Congo, 8 jours après une catastrophe similaire. Les informations reviennent dès 8h. Merci de rester en notre compagnie.
Radio de la Paix. Se parler. S'écouter. Se comprendre.